Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, l'émission où on vous résume toute l'actu jeux vidéo, PC, console, mobile, industrie, analyse, bonne humeur. On est là pour vous faire passer un bon moment et vous informer en même temps. Je suis Patrick Béja, c'est l'épisode numéro 194, nous sommes en juillet 2021 et c'est le cœur de l'été, il fait extrêmement chaud et là pour le coup je rigole pas, il fait 30 degrés en Finlande, en dehors de ma fenêtre, même un petit peu plus au soleil. C'est complètement fou, c'est la canicule pour le pays où je vis. Heureusement, j'ai un ventilateur derrière pour ne pas m'effondrer dans une flaque de sueur. Donc si jamais ça fait un tout petit peu plus de bruit que d'habitude, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. C'est essentiel pour que je puisse faire l'émission. Et heureusement également, j'ai deux co-animateurs absolument formidables qui se joignent à moi pour couvrir le State of Play avec les détails sur Deathloop. On va parler aussi de Google Stadia qui brade ses prix. C'est une manière de le dire un petit peu clickbait, mais vous allez voir que c'est pas complètement faux non plus au niveau des développeurs. Netflix qui veut se lancer dans le jeu vidéo et puis plein de news de jeux comme Super Robot Tyson, Death Door, Persona 6 peut-être et d'autres choses du genre. Et je disais que j'ai des co-animateurs formidables, deux co-animateurs formidables. En fait, je mentais un peu puisque vous avez entendu la voix d'un d'entre eux et vous savez qu'il n'est pas vraiment formidable, il est juste sympa, donc on continue à l'inviter. C'est Daniel Charby qui nous rejoint directement de ses bureaux londoniens. Comment ça va, Dani?
Bah, merveilleusement bien, surtout depuis que tu as mentionné Persona 6. Là, tu viens peut-être de spoiler un des reveals d'Atlus dans les prochains mois.
Ouais, on n'y est pas encore. Hein. Ils disent des reveals sur les 3 prochains mois. Donc bon, ouais. On a le temps de spéculer. C'est vrai. Merci d'être avec nous, Dani, encore une fois. Et on a le plaisir de recevoir à nouveau Claire Léger. Comment ça va, Claire? Est-ce que tu es en forme?
Bonjour, je suis assez en forme et du coup, pour l'instant, je suis encore en télétravail. Donc, je suis en Normandie, moi, actuellement.
Voilà. Très bien. Écoute, c'est parfait. On est tous dans nos campagnes respectives. Bon, à part Dani, mais lui, il compte pas. Donc, je pense que c'est une excellente ambiance pour parler de jeux vidéo. Je rappelle que tu es notamment chez Spiders, le studio français. Et j'espérais pouvoir te tirer un petit peu les vers du nez pour parler de Steel Rising, qui m'intrigue pas mal. Mais tu me dis que c'est pas encore le moment de parler, de faire le grand push marketing et de venir dans les podcast pour en parler, donc on va devoir se contenter de parler juste de jeux vidéo en général.
C'est ça.
Ouais.
C'est ça, juste ce dont je peux parler, c'est effectivement de la semaine dernière où il y a eu la Nacon Connect et où du coup, voilà, il y a le trailer, voilà, c'est ça. Ouais.
Je t'avoue que généralement, on reçoit de temps en temps des gens de l'industrie, du côté développeur dans l'émission, et généralement, j'ai pas trop envie de parler de leur jeu parce que j'aime pas vraiment le format interview, c'est un petit peu, on vend sa salade, et parfois je le fais. Et parfois c'est très intéressant, souvent c'est même très intéressant, mais j'hésite un peu. Là pour Steel Rising, depuis ce trailer, en fait, je me pose encore plus de questions et je me dis, ah, ça pourrait être intéressant, l'esthétique est particulière et le gameplay, c'est la première fois qu'on en voit, a l'air intéressant aussi. Mais bon, écoute, on attendra que les choses se précisent.
C'est encore un petit peu secret, ouais, ouais. Désolé.
D'accord, très bien, il n'y a pas de souci.
Mais ravi que ça te plaise.
Oui, bah merci. Je suis intrigué, on va dire, et je suis très curieux d'en savoir plus. Mais bon, on a quand même un programme très intéressant, comme je le disais. Avant de se lancer, je vais quand même remercier les patriotes qui soutiennent l'émission, qui lui permettent d'exister, notamment Gabriel 974. Alors, il y en avait 973 autres, mais c'est vraiment le 974 qu'on remercie spécifiquement. Florent Arfel, Isilma, Manu Supra, qui est bien meilleur que Manu Ipra, Olivier Derez et le producteur de cet épisode, Claude Girel, qui a réussi à trouver le niveau secret de production qui est très, très, très bien caché et qui est du coup contributeur privilégié. Merci beaucoup à Claude de participer à la production de l'émission et à tous ceux qui soutiennent l'émission en général. Alors, justement, en parlant de Patriot, on va peut-être avoir un petit after show après l'émission. Ça va dépendre de si les petits vont venir courir dans le bureau en pleurant pendant l'enregistrement du Rendez-vous Tech. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté cette semaine, en plein milieu de l'épisode, il y a mon fils qui monte les escaliers en pleurant. Parce qu'en fait, ma femme lui avait envoyé un petit peu d'eau dessus. Elle pensait jouer avec de l'eau et il voulait pas. Donc, il est monté en pleurant. Il dit, maman m'a envoyé de l'eau dessus. J'ai dû interrompre l'émission, tout ça. Bref, si on n'a pas d'interruption de ce genre et d'urgence, on fera peut-être un after show réservé aux Patriotes, évidemment, où on va parler d'un sujet qui me paraît assez intéressant. On en discutait sur Discord et Omnael a suggéré l'idée de demander aux auditeurs quel jeu choisiriez-vous de créer si vous aviez les moyens de créer un triple A. Et je trouve cette question super intéressante parce qu'on a souvent tendance à critiquer les triple A en disant qu'ils ne sont pas inventifs, que c'est toujours la même chose, que c'est recyclé, etc. Et je me demande si les auditeurs, alors les auditeurs de l'émission sont évidemment des gens formidables d'une créativité sans bornes, mais je me demande s'ils auront des idées intéressantes pour des triple A qui soient satisfaisants justement pour cet auditorat très critique que sont les auditeurs et les joueurs de jeux vidéo. Bref, on verra si on a le temps de faire ça après l'émission elle-même. En attendant, on va parler du State of Play. Et le State of Play, c'est comme toujours l'émission, enfin YouTube, où Sony présente ses nouveautés. En l'occurrence, c'était des nouveautés third party uniquement, avec en particulier un focus sur Deathloop, qui a été annoncé il y a bien longtemps, qui est mis en avant chez Sony depuis bien longtemps, et dont qu'on ne connaît pas grand-chose du gameplay, en tout cas, et qui est très intriguant. C'est un jeu d'arcade qui a fait Dishonored et donc qui a gagné ses galons, c'est certain. Mais Deathloop en lui-même, on avait beaucoup de points d'interrogation dessus. On a vu une séquence de gameplay de 9 minutes qui semble répondre à certaines de ces questions. On a une structure qui semble commencer à être un petit peu plus claire. Alors, je vais préciser et puis on va pouvoir en parler. On a en fait des séries de missions. On doit tuer 8 leaders de 8 factions dans une ville spécifique en une journée. Mais ce n'est pas une partie qui fait la journée. On a plusieurs zones et plusieurs donc, leaders à tuer. Et on peut choisir si on fait la mission le matin, le midi, l'après-midi ou le soir. Enfin, c'est ce genre de truc. On a 4 parties de la journée et on doit choisir quand on l'a fait. Et en fonction du moment où on fait la mission, les choses sont organisées différemment dans la ville. Et il faut réussir donc dans une journée. Alors comment ça se structure en réalité, je ne sais pas. Comment est-ce que c'est structuré? Est-ce qu'il faut faire genre réussir à aligner comme un puzzle 4 missions où on réussit à tuer les 8 à l'intérieur de ces 4 missions, mais on peut en recommencer une à n'importe quel moment? Est-ce qu'il faut les faire dans l'ordre? Est-ce que ça, on ne sait pas trop. Et l'autre élément intéressant, c'est l'élément multijoueur qui a été confirmé. C'est-à-dire qu'on a un des objectifs qu'on doit tuer, l'un des leaders qui est une personne qui nous parle beaucoup pendant le jeu, qui peut être incarné par un deuxième joueur qui du coup transforme le jeu en une sorte de jeu multi qui va pouvoir nous pourchasser dans la mission. Et ça, c'est optionnel. Et donc, il y a une sorte d'élément PVE/PVP qui s'installe dans le jeu. Et c'est à peu près tout ce qu'on sait, au-delà du fait que ça a l'air quand même très Dishonored dans le gameplay. On a la téléportation de Dishonored qui semble jouer un grand rôle dans le gameplay. Et voilà pour le jeu. Je suis curieux, du coup, est-ce que vous êtes intéressé, un petit peu impatient de jouer à Deathloop, ou ça ne vous dit pas grand-chose? Peut-être, je vais poser la question à Claire, c'est un studio français, donc j'ai l'impression que tu es un petit peu obligé de dire que ça va te plaire, Claire, non?
Alors oui, le monde est petit, mais bon, je dois dire que la direction artistique est juste, me plaît beaucoup. Ça, c'est la première chose. Le gameplay a l'air prometteur. Après, j'attends de voir. En fait, en termes de rythme, je me demande ce que ça va vraiment donner. Une fois qu'on va vraiment avoir le pas dans la main et qu'on va tester les missions, etc., j'attends de voir. Mais c'est un projet que je suis depuis longtemps parce que c'est un peu différent de ce qu'on voit d'habitude. Donc, voilà. Ouais. Et puis en règle générale, effectivement, j'aime bien ce que fait Arkane aussi.
J'ai l'impression que J'ai l'impression que ça va être ça la clé en fait. Avec tout l'habillage qu'il y a autour, j'ai l'impression que ça va être, si on aime le gameplay des jeux Arkane, on risque d'être... Enfin, des jeux Arkane, c'est Lyon, hein, je ne me trompe pas, c'est Arkane Lyon qui fait les Dishonored.
Oui, c'est Arkane Lyon, ouais.
Ouais. Donc si on aime les jeux d'Arkane Lyon, on risque d'aimer celui-là. Si on n'est pas client à la base, peut-être ça a l'air un petit peu plus arcade, un petit peu plus dynamique quand même que les autres. Donc peut-être, je ne sais pas, mais oui, ça a l'air d'être un élément essentiel. Dany,
en tout cas, c'est un bel univers.
Oui, ouais, je trouve que la direction artistique, c'est vrai, tu l'as rappelé, c'est ce qui nous a attirés au départ parce qu'on avait un petit peu que ça. C'est une direction artistique qui est vraiment séduisante. Dans l'habillage, certainement. Dans le jeu lui-même, il faudra attendre de voir si ce n'est pas juste un FPS. Mais il a l'air d'y avoir l'ambiance qui est vraiment imprégnée dans le jeu. Enfin, le jeu est imprégné de cette ambiance. Donc, ouais, à voir. Et puis, il y a ces mécaniques aussi de cette idée que c'est une journée. Peut-être qu'il va falloir observer les différents endroits, les différents leaders, ce qu'ils font à quel moment pour pouvoir coller tout ensemble comme dans un puzzle pour qu'on réussisse à aligner sur la journée l'assassinat des 8. Ça va être quelque chose de... Peut-être un élément important du gameplay. Dany, toi, ça te tente Deathloop
Je suis intrigué en fait. Alors la direction artistique est chouette, ça c'est sûr. Les questions en fait, moi, que je me pose, c'est premièrement, je serais curieux de voir comment ils vont arriver à faire prendre la sauce en fait, pour que ça reste un jeu qui soit intéressant sur la durée et qui soit pas uniquement un try and die où tu vois bah finalement tu refais ta journée 854 fois, t'as débloqué tous les pouvoirs et ça y est, maintenant t'y es. Donc on verra ce que ça donne. De toute façon, je l'essaierai, ça c'est sûr, mais je me demande en fait s'ils vont arriver à renouveler en fait l'exploit qu'ils avaient fait avec Dishonored à l'époque, qui avait été vraiment enfin acclamé et qui avait apporté vraiment quelque chose de très différent dans ce type de jeu. Maintenant voilà, est-ce que ce sera un FPS comme il y en a des palettes, hein, ou est-ce que ce sera vraiment un jeu à la sauce Arkane avec quelque chose de nouveau? Bah on verra en septembre. Hein.
Ouais, ils ont l'air Vas-y Claire, pardon.
C'est vrai qu'on se demande un peu, effectivement, quand je parlais de rythme tout à l'heure et tout ça, j'espère que c'est pas le jour de la marmotte, quoi. Je sais pas si vous...
ouais, ça... Le classique.
Ouais, si on n'est pas Bill Murray, ça serait une direction artistique très originale, ça c'est sûr, oui.
Oui, oui, mais c'est vrai que c'est vrai que pour l'instant, on sait pas trop vers quoi on va aller dans ce jeu.
Ouais. Bah, il y a certainement un élément de... Enfin, certainement, ça a l'air en tout cas d'avoir un élément de roguelite. Donc oui, il y aura un petit peu de ça peut-être, mais en espérant que ça reste dynamique avec le level design d'Arkane qui est vraiment exceptionnel sur les Dishonored, avec des possibilités assez incroyables de progression dans les niveaux qui ont l'air toujours d'être naturels, même si c'est quelque chose qu'on choisit soit pour cette progression-là, enfin pour cette approche du niveau-là. Donc à voir. C'est censé sortir. Alors attendez que je dise pas de bêtises. On a une date certainement pour Deathloop, mais je ne me souviens plus. C'est à la rentrée, hein, le 14 septembre.
Septembre. Voilà.
Ouais. Le 14 septembre, et c'est un jeu Bethesda, donc ZeniMax, donc Xbox. Donc on vous évitera les blagues sur le fait que c'est un jeu Xbox qui sort sur PlayStation. Elles ont été suffisamment faites pendant le State of Play, et je suis sûr qu'on en aura encore après. C'est un exclusif PlayStation, puisque le deal avait été signé avant le rachat de Bethesda par Microsoft. Il y a eu d'autres jeux qui ont été présentés, ou en tout cas pour lesquels on a eu des mises à jour. Ce que j'ai retenu, vous me direz si il y a des choses que j'ai ratées. D'abord, Sifu, qui a eu une nouvelle vidéo. Sifu, le jeu de Absolver, kung-fu assez dynamique, assez, où ça frappe assez fort, qui a été décalé à 2022 parce que, pour protéger le bien-être de l'équipe, selon le développeur. Donc, bon, évidemment, on ne peut pas leur en vouloir. Et ils ont également montré la mécanique de vieillissement du personnage principal qui, à chaque fois qu'il perd, qu'il meurt, peut perdre 2 ou 3 ans de sa vie et vieillir un peu. Et c'est ce qu'on avait vu un petit peu dans les trailers précédents. Et continuer là où il s'était arrêté. Ça ne semble pas influencer, d'après ce que dit le développeur, ça ne semble pas influencer les capacités de combat du personnage. Donc, je suis sûr que ça devait faire partie de l'idée à la base et que finalement ça a été abandonné, mais c'est une idée qui est séduisante de dire au départ on est peut-être un petit peu plus rapide, un petit peu plus énergique, mais plus on vieillit, plus on a l'expérience et donc on a moins de punch, mais on a plus de prédictions de ce que vont faire les ennemis. Je sais pas, bon, visiblement c'est pas le cas, c'est un peu dommage. Donc la mécanique en question finalement c'est juste une mécanique de jauge, de on peut continuer jusqu'à ce qu'on ait, je ne sais pas, 150 ans, peut-être, s'il est vraiment très en forme. Mais le jeu continue pour moi à être vraiment séduisant, quoi. Au niveau de la dynamique des combats, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu ailleurs.
L'animation, la pêche des combats, c'est exceptionnel, je trouve. Et je suis curieux de voir comment ça va être mis en œuvre en fait en termes de gameplay, d'action et de plaisir de jeu. Mais en tout cas, au niveau des vidéos, c'est canon. Hein.
Ouais, on est d'accord. L'autre jeu qui m'a tapé dans l'œil de plus en plus, en fait, c'est Tribes of Midgard, qui lui sort bientôt, il sort le 27 juillet, et c'est un jeu qui avait été présenté pendant le 3, en fait, je ne sais plus dans quelle conférence, et c'est un mélange visiblement entre Diablo et Valheim. On peut jouer à plusieurs, il y a un mode construction survie où on doit construire sa base, mais le gameplay lui-même, c'est vraiment du hack and slash, hein, du action RPG. Et il y a un élément jeu-service avec des saisons, etc. Bon, ça, c'est bien pour garder du contenu sur le long terme, mais à la base, c'est un jeu à 20€ qui a l'air, bon, c'est les trailers, qui a l'air intéressant, un petit peu ambitieux peut-être. Je craignais de ne pas avoir vu d'early access ou de bêta. Il se trouve qu'en fait, ils en ont eu, early access et bêta. Donc, ils ont eu au moins un retour des joueurs. Pour un jeu aussi ambitieux, ça me paraît important. Mais je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Très, très, très curieux. J'aime les Diablos, j'aime Diablo 3, donc forcément ça me parle un peu. À voir, ça arrive très bientôt, hein, dans 2 semaines. Tribes of Midgard, ça vous dit de vous lancer dans des aventures vikings en mode Diablo? Dany, je suis sûr que t'es client tout de suite, toi.
tant que je peux faire exploser mes ennemis dans des pluies de sang abominables, ça me va très bien. Mais écoute, n'est pas Diablo qui veut, hein.
Ouais. Il faut avouer, c'est vrai que il faut le rappeler, n'est pas Diablo qui veut, ce qui fait que je suis un petit peu, disons, circonspect, mais enthousiaste, on va dire enthousiasme prudent. Claire, c'est ton genre de jeu, les Diablo-like à la Valheim, comme Tribes of Midgard?
Ah ouais, moi j'aime bien. En fait, ça me défoule pas mal, tout ce qui est hack and slash et tout ça, principalement. Alors, je dois dire que j'avais pas vu, donc là, je découvre en même temps que peut-être certains auditeurs. Moi, je trouve que ça a l'air chouette. Hein. Je trouve que on a envie d'y aller un peu. Après, on va voir aussi. Ça va dépendre un peu de ce qu'il y a comme classe de personnage, quand même. Ouais. Si c'est classique ou pas. Enfin, quelle est l'histoire derrière, tout ça, quand même. Parce que si c'est un truc où on fait juste taper, bon, ça va. On va jouer une heure et puis après, on va partir. Mais je trouve que ça a l'air prometteur. Puis c'est assez joli.
Le truc, c'est qu'il faut être prudent, hein, quand même. On l'a vu ces dernières semaines, ces derniers mois, avec le jeu Magic, c'est Legends, je crois, qui avait l'air très, très sympa dans les trailers, mais qui s'est arrêté après 3 mois de bêta, ce qui s'est carrément arrêté parce qu'il était... il fonctionnait pas. On va pas repartir dans les détails de ça, mais c'est sûr que le trailer a l'air sympa, mais évidemment, on peut pas juger un jeu sur un trailer. Donc, on va attendre. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas longtemps à attendre. C'est une quinzaine de jours et on pourra juger par nous-mêmes pour une 20€. C'est sur à peu près toutes les plateformes, je crois. Donc, à voir.
Qui fait ça ?
Tribes of Midgard, alors attends que je te dise pas de bêtises, c'est un développeur dont j'avais pas entendu parler.
C'est Northloop, je crois, ou Northfell.
Northfell, voilà. Et c'est publié par Gearbox. Donc, je sais pas si c'est leur premier jeu, mais en tout cas, c'est leur premier jeu qui fait un petit peu de bruit comme ça. Hein, donc, à voir. L'autre jeu que je voulais évoquer, et puis après on va avancer, c'est Lost Judgment, qui est en fait Judgment 2, ce jeu dans l'univers de Ryuga Gotoku, Yakuza, qui est annoncé depuis un moment, enfin il y a quelques semaines, ou oui, quelque chose comme ça. et qui a fait un petit peu l'actualité. On avait un trailer dans ce State of Play, mais plus important que ça encore, c'est la nouvelle qu'il risque de ne pas sortir sur PC parce qu'il y a un conflit visiblement entre l'agence de Kimura Takuya, Kimura Takuya qui est un acteur, une idole japonaise très 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 connue, c'est l'une des plus grandes personnalités au Japon, qui joue le personnage principal, et l'agence de cet acteur, Kimutaku, semble ne pas avoir donné son accord pour la sortie sur PC, et du coup ça m'a fait un petit peu plonger dans les, la stricterie de cette agence, et on a Eldindon, qui est un Twitter assez, je vois souvent son nom passer, qui est un peu connu, qui a donné des exemples de la manière dont l'agence Johnny's gère les droits des personnalités qu'il représente au Japon, et ça pousse les publications à carrément supprimer, mettre un à même pas à flouter, mais à surligner les images des personnes comme ça dans les photos publiques qu'ils prennent, tellement la société est agressive sur l'image du truc. Donc au début je me disais, mais enfin, comment est-ce que c'est possible qu'ils demandent à ce que le jeu ne sorte pas sur PC? Ça serait bon pour tout le monde. Ça serait bon pour Sega, ça serait bon pour Kimutaku qui va toucher plus d'argent. Et en voyant ça, je me rends compte que oui, effectivement, c'est peut-être pas si incroyable que ça de la part de cette agence. Ça m'a amusé et surpris en même temps. Donc voilà, si Judgment et Lost Judgment ne sortent pas sur PC, c'est peut-être pour cette raison. Et puis, il y avait quelques autres petites choses. Death Stranding, c'était amusant parce qu'on a eu un trailer pour le nouveau Death Stranding et une note selon laquelle Hideo Kojima était assez d'accord sur le fait que le nom Director's Cut n'est pas vraiment adapté à Death Stranding. Donc, c'est clairement un nom marketing de Sony qu'ils ont choisi, qui est franchement, qui n'est pas plus bête qu'un autre. Hein. C'est juste un moyen de dire, bah, c'est la version étendue. Mais c'est marrant que Kojima se soit senti le besoin de dire, non, non, mais Director's Cut, ça ne correspond pas vraiment à l'esprit du truc. Hein. Moi, c'est mon jeu et il n'y a pas de Director's Cut, donc c'était marrant.
Et c'est la Kojima's Cut, en fait. Ils auraient dû la bander comme ça. Hein. C'était vachement mieux.
Et on a vu aussi un trailer pour un autre jeu qui est très intéressant, qui est Moss 2. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Moss, mais c'était un jeu, enfin Moss Book 2, le livre 2, qui était un jeu en réalité virtuelle sur PlayStation VR, dont le deuxième épisode a été annoncé. On n'a pas de date, on imagine qu'il arrivera sur PSVR 1, mais est-ce qu'il arrivera aussi sur PSVR 2? On ne sait pas. Là, il a un look qui semble plutôt PlayStation 4, donc PSVR 1. Mais c'est marrant qu'ils continuent à mettre en avant la réalité virtuelle et ça montre à quel point ils croient, alors ils n'y mettent pas toutes leurs billes, hein, mais ils croient à la chose. Et bon, à côté de ça, Moss était un petit jeu sympathique en diorama où on contrôlait une petite souris et le 2 a été du coup annoncé, donc ça continue à être actif au niveau de la réalité virtuelle.
C'est un peu dommage quand même, moi je trouve, en réalité virtuelle, pour l'instant, les jeux, enfin visuellement, c'est quand même pas encore au niveau de ce qu'on trouve ailleurs, quoi. Même si je suis d'accord, on a une projection immersive qui est intéressante et tout ça, c'est pas encore aussi bien, quoi.
Bah, c'est le problème de la réalité virtuelle, c'est qu'on a besoin d'une fréquence d'affichage plus importante autour de 75-90 images par seconde pour que ça soit pas pour que la cinétose s'installe pas trop, que ça soit pas gerbique, on va dire. Et en plus de ça, il y a les deux images à calculer, une pour chaque œil. Alors même si ça double pas exactement forcément la puissance de calcul nécessaire, bah ça réduit ce qu'on peut faire. Donc je suis d'accord. Moi je suis curieux de voir ce qui va se passer avec la PlayStation 5. Parce qu'on était à un niveau correct avec la PlayStation 4 déjà, avec la PlayStation 5 et le PSVR 2, ça pourrait commencer à arriver à des choses qui sont vraiment immersives et impressionnantes. Donc, ma réponse à ton commentaire, Claire, c'est achète une PS5 et attends le PSVR 2, et là, peut-être que tu seras contente.
Ouais, mais tu vois, moi c'est le souci que j'ai avec la VR, c'est pas tellement en fait au niveau des graphismes, mais plutôt au niveau du storytelling et de la façon dont le jeu fonctionne en général. Et pour l'instant, je suis pas du tout convaincu. J'ai pas trouvé un seul jeu où je me disais, oh, c'est génial, il faut absolument que j'y joue.
Ouais, ça c'est le problème de la VR en général, on est assez d'accord, on a beaucoup de jeux en première personne beaucoup de jeux en troisième personne qui se focalisent, mais Moss justement il a un petit peu plus de, c'est un des plus soignés parmi ces jeux-là, c'est un jeu en diorama comme je disais, où on contrôle la petite souris, mais c'est vrai que généralement c'est plus on va dire mécanique, on est... Mine de rien, en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'on est encore au début de la réalité virtuelle et que les développeurs sont encore en train d'apprendre la manière dont ça fonctionne. On est à Space Invaders, en fait, de la réalité virtuelle dans le domaine du jeu vidéo. Donc, j'imagine que ça aidera aussi quand on aura un seul câble et un casque un petit peu plus confortable et ce genre de choses pour pousser les gens à l'utiliser et donc les développeurs à plus investir, etc., etc. Mais bon. En tout cas, Sony ne lâche pas l'affaire. Est-ce qu'il y a d'autres jeux qui ont été présentés qui vous ont marqué ? Peut-être que Dany est tombé amoureux de Demon Slayer. Cet animé est fort populaire. Ou Arcadageddon, qui semble-t-il n'est pas très très bon, qui est déjà sorti. C'est un TPS un petit peu néon. Il y a quelques autres choses. Il y a Jet de Far Shore, qui est un petit peu comme No Man's Sky, mais en mode plus cool. Il y a eu plein de choses annoncées. Mais bon, voilà, ça, c'est ce que j'avais retenu. Il y a des choses que vous avez retenues. D'autres choses dans le lot, Claire, peut-être ?
Dans les gros titres, je dois dire que le Avatar a l'air quand même fou.
Le Avatar ?
Ouais.
Tu parles du Avatar de Ubisoft ?
De Ubisoft, ouais.
Ah oui, non, mais là, on parlait du State of Play de la semaine dernière, celui spécifiquement,
pardon.
Oui.
Pardon. Moi, j'étais parti sur les jeux annoncés à l'E3.
Oui, non. Mais c'est vrai que Avatar a l'air graphiquement fou. Je suis un petit peu.
Ah oui, graphiquement fou, ouais.
Un petit
peu. Serait-ce encore un énième open world d'Ubisoft avec 15 millions de trucs à faire partout, un univers immense, mais un rythme
ça,
un peu.
Ça, c'est possible. Oui, bah après, oui, ça, c'est possible. Maintenant, il y a un certain nombre de jeux qui, effectivement, sont un peu comme ça. Mais visuellement, moi, je me suis dit, ah la vache, on a l'impression d'être dans le film, quoi.
Ouais.
Sur ce qu'il montre, ça a l'air vraiment très séduisant. Après, effectivement, c'est toujours pas dans main. On verra ce que ça va donner. Mais, ouais. Voilà. Mais pardon, que j'étais à côté par rapport
pas
à
du, pas du tout, pas du tout. C'est vrai qu'Avatar, c'est un projet qui a l'air intéressant pour Ubisoft. Dany, quelque chose d'autre qui t'a marqué ?
Non, tu vois, dans le reste, effectivement, Demon Slayer a l'air super chouette, mais j'ai pas du tout accroché à l'animé. Alors, il paraît que c'est exceptionnel, mais j'ai vu deux épisodes, je ne suis pas arrivé. Tout
le
monde dit, ouais, il
faut faire
le coup. Exactement. Donc, peut-être que le début, effectivement, c'est bon, voilà, et que ça s'améliore après. Donc, je te laisserai regarder la série. et si tu me dis qu'effectivement, ça devient fantastique, je retente.
Ah, bah, tu sais que le temps de regarder des séries de 78 épisodes, c'est exactement ce que j'ai en ce moment avec les deux.
Bah, exactement, c'est bien. Bah, justement, j'ai profité de toi alors. Mais non, ouais, moi, franchement, à part ça, tu vois, ceux qu'on a mentionnés au début, c'est ceux qui m'ont le plus marqué. Le reste, tu vois, il y avait Fist, qui est un Metroidvania qui peut être intéressant, mais l'univers ne me parle pas trop, donc j'essaierai peut-être pour voir, parce que j'adore les Metroidvania, mais c'est le seul peut-être dans l'eau qu'on peut mentionner. D'accord.
Bon, donc on se contentera pour le moment dans 15 jours de Tribes of Midgard, qu'on essayera tous ensemble. Je vais prendre une toute petite seconde pour vous dire à quel point j'apprécie certaines catégories de gens. Alors, j'apprécie, dans ma vie, il y a des échelles d'appréciation. En général, les gens que j'apprécie pas trop, c'est les gens que je connais pas dans le monde entier, tu vois. C'est bon, ils sont sympas sûrement, mais c'est pas forcément mes amis.
Et moi
après, il y a mes amis, dont Dany ne fait pas partie, que j'aime bien. Bon, c'est des gens sympas. Après, il y a... Alors, tout en haut, il y a ma famille, hein, évidemment. Mais après les amis, encore une fois, Dany n'en fait pas partie. Il y a la catégorie des auditeurs du rendez-vous jeu. Ces gens-là, c'est des gens bien. Là, Dany, est-ce que tu écoutes le rendez-vous jeu, toi ? De temps en temps
Évidemment, surtout quand j'y passe pour réécouter les perles de sagesse que je peux
c'est
donner.
C'est suffisant. C'est suffisant, donc tu fais partie des gens pas mal, tu vois, des gens bien, des gens sérieux, des gens cool. Et au-dessus de ça, les gens que j'apprécie le plus dans la vie, c'est les gens qui soutiennent le rendez-vous jeu. Alors ceux-là, c'est des personnes d'une qualité, mais vraiment exceptionnelle, d'une qualité incroyable. Ils sont déjà très nombreux à le faire, et quelles que soient leurs opinions, leurs idées, leur attitude, bon, dans une certaine mesure, évidemment, je pense que ce sont des gens formidable. Ils sont allés sur patreon.com/rdvjeux et ils se sont dit, mais Patrick est quelqu'un de bien. Il faut que je l'aide à vivre de sa passion. Et donc, il donne 1 euro, 2 euros, 3 euros, ce que c'est par épisode. Le prix d'un croissant, le prix d'un café, le prix d'un sandwich. Et je les en remercie infiniment. Et je trouve que ce sont effectivement des personnes exceptionnelles. Dans le monde, il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas très cool. Et bien, ces gens-là sont des gens cool. C'est quand même une qualité incroyable. Donc, merci à vous tous et à vous toutes. Merci aux Patriotes, patreon.com/rdvjeux, pour rejoindre la communauté formidable des Patriotes et avoir accès à tout plein de bonus, comme bah, l'after show, dont je parlais tout à l'heure, où on discute avec les Patriotes, justement, les time codes, les time codes dans les émissions pour passer les moments qui vous plaisent pas, les émissions sans pub, etc., etc. Tout plein de choses. Donc, si ça vous intéresse et si vous voulez être quelqu'un de cool, patreon.com/rdvje. Le lien est dans les notes de l'émission. Alors, on continue avec les news un petit peu plus rapides, avec Google qui a fait une petite conférence destinée vraiment aux développeurs, il y a, c'était hier je crois, pour annoncer une série de changements dans leur stratégie commerciale, sur lesquels je ne vais pas passer deux heures dessus, hein, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant à noter, c'est qu'ils ont décidé d'une part de... qu'à partir d'octobre, ils vont réduire leur pourcentage de 30% à 15% sur les revenus générés par les jeux sur Stadia. Donc, ça va durer, je crois, jusqu'à 2022 hein, ou 2023, quelque chose comme ça. Ce n'est pas jusqu'à la fin des temps, mais sur les deux ou trois prochaines années, ils vont passer à 15% pour les trois premiers millions de bénéfices ou de revenus des jeux sur Stadia. Donc déjà, c'est un encouragement aux développeurs de venir sur la plateforme. Et l'autre chose qu'ils font, c'est que pour les jeux qui sont inclus dans l'abonnement Stadia Pro, vous savez que Stadia offre des jeux un petit peu comme PlayStation Plus tous les mois, et il y a en plus une série de je ne sais plus, ça doit être une dizaine, une quinzaine de jeux offerts à tous ceux qui sont abonnés à Stadia Pro, qui sont disponibles quoi qu'il arrive. Et ben pour ces jeux-là, il y aura un partage de revenus de 70% des revenus de l'abonnement Stadia Pro, qui est à peu près à 10 euros par mois, en fonction du temps de jeu qu'aura passé le joueur sur le jeu des développeurs. C'est-à-dire que si vous jouez trois fois dans le mois un jeu qui est disponible par Stadia Pro, eh ben, Stadia va redistribuer 70% des revenus distribués sur tous les jeux, si je comprends bien le principe, tous les jeux auxquels le joueur aura joué dans son mois. Donc, c'est vraiment... alors, il y a quelques autres choses qu'ils ont annoncées, mais en gros, c'est ça, il y a de l'affiliation, etc. Mais c'est vraiment une tentative de Stadia d'attirer les développeurs. Alors, quand on parle de 3 millions, je pense que c'est plutôt les développeurs relativement modestes qui vont être intéressés par ça. Mais il y a une volonté vraiment de dire aux développeurs... Venez, on brade les prix. Chez nous, vous serez mieux traités qu'ailleurs. Donc, venez des...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Développé pour nous. Je me demande, j'allais dire business. Dany, toi qui es un grand connaisseur du business, du monde du business et du monde corporate, on rappelle que tu travailles chez Dell depuis longtemps et que tu es un expert de la stratégie d'entreprise. Comment est-ce que tu vois ces décisions de Google ? C'est trop peu, trop tard ? C'est intéressant quand même ? Qu'est-ce que tu imagines ?
Je pense que c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que, bon, effectivement, le lancement de Stadia a été pas forcément le plus réussi au monde. Il y a des opportunités de progression, mais je pense aussi que c'était une bonne période pour améliorer les infrastructures, s'assurer que ça tienne et que... il y a une progression en fait sur la durée, et je pense que maintenant Google doit se sentir prêt à accueillir une accélération en fait de développeurs et de pour arriver à croître en fait leur portefeuille de jeux. Et je pense que c'est une bonne manière de les attirer et de proposer en fait une opportunité financière qui est vachement intéressante, parce que finalement passer de 30 à 15%, ça rend Google extrêmement compétitif par rapport au reste du marché. Et je pense que c'est peut-être aussi un moyen d'attirer peut-être aussi des exclus en fait, au moins temporaires, parce que finalement on parle au portefeuille des développeurs, et je pense que c'est une bonne chose sur la durée. Ouais,
c'est sur les 3 premiers millions, comme on disait, c'est sûr que ouais. Ça va pas forcément des jeux comme Call of Duty par exemple, comment c'est l'expression, celle en touche une sans bouger l'autre, un truc du genre. Ouais. Sur les 3 millions, ça ne va pas beaucoup les faire sourciller Bobby Kotick dans sa tour d'or massif. Tu vois, ça ne va pas vraiment l'intéresser. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux, peut-être double ou triple A. Pardon, je veux dire indépendants ou double A, qui vont peut-être être plus séduits par la chose. C'est intéressant aussi parce que je pense que ça dénote de cette nouvelle orientation de Stadia de se poser en tant que... infrastructure en quelque sorte pour d'autres développeurs. Et étant donné que Stadia est accessible à n'importe qui dans n'importe quel navigateur ou presque avec juste une adresse Gmail, bah, c'est hyper accessible. Peu importe que les gens, même s'ils n'ont pas acheté une console ou même s'ils ne sont pas abonnés à Game Pass par exemple, même si bon, bah, Game Pass justement c'est une concurrence sérieuse à ce type d'offre, bah, on peut aller sur son navigateur, lancer Stadia, acheter le jeu et commencer à jouer tout de suite. Donc c'est vrai que même s'ils n'ont pas eu un succès important jusqu'à maintenant, ça peut facilement se retourner puisque la facilité d'accès est plus importante qu'ailleurs.
Un autre élément en fait je trouve intéressant là-dedans, c'est que finalement ça met les développeurs aussi dans une ou les studios dans une un rapport de force complètement différent, parce que finalement tu lances ton jeu sur Stadia, s'il cartonne, après ça donne des opportunités de négociation que tu n'aurais pas eu sur toutes les autres plateformes, et donc ça te permet peut-être de dire bah voilà, moi j'ai 15% sur Stadia, pourquoi est-ce que je vendrais mon truc sur Steam, et tu peux négocier peut-être. Ça ouvre des opportunités de négociation.
Je veux pas. Alors, être... Vas-y, Claire.
Du coup, moi, je vais vous dire... Moi, j'ai une Stadia. Je fais partie des gens qui ont acheté la console au démarrage.
La console, tu veux dire la catalogue. Manette
La manette, oui, du coup.
Oui,
la
Founders Pack, comme moi. Oui, oui, tout à fait. Ouais.
Et voilà, c'est ça. Personnellement, je trouve que c'est génial, que la manette est un peu lourde, que c'est génial, mais que c'est encore pas très, très au point. En fait, le truc, c'est que si t'as pas une connexion internet derrière qui suit, grosso modo, ton expérience de jeu, elle est un peu moins bonne. Quand même, je trouve que le catalogue commence à être assez intéressant par rapport au début, parce qu'au début, c'était un peu la tristesse quand même. Ouais. C'était déjà des jeux qui étaient vieux et tout, enfin, qui étaient réadaptés sur la Stadia, mais c'était pas très 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 intéressant. Depuis, quand même, il y en a eu quelques-uns que je trouve assez assez intéressants. Je suis d'accord pour dire que c'est hyper séduisant de pouvoir jouer n'importe quand juste avec son adresse Gmail et tout ça. Pour moi, pour l'instant, ça n'a pas encore vraiment rencontré son public Stadia, mais j'espère que ça le fera, parce que c'est intéressant. Alors évidemment, avec le Game Pass en face là, je pense qu'ils doivent.
C'est dur.
Ouais, c'est ça. Et ça va quand même être un petit peu dur. L'autre truc aussi, c'est que par contre, quand on est développeur et qu'on veut aller sur Stadia, c'est pas très 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 facile globalement quand même de développer pour Stadia. Et puis il faut s'y mettre, c'est-à-dire que c'est comme si y avait une nouvelle console qui débarquait sur le marché et qu'il faut prendre en main les contraintes techniques, quoi. Donc pour un studio, c'est quand même un investissement important de se dire que tu vas mettre ton jeu sur Stadia. Sachant que quand tu as une nouvelle génération de consoles PlayStation déjà qui arrive, tu transpires en tant que développeur en disant il va falloir aller sur la nouvelle génération de consoles. Donc, et puis, y a de plus en plus de développeurs qui vont proposer des nouvelles choses, de ce genre-là, etc. Donc, faut voir aussi ce que ça donne le projet de Steam, là. De pouvoir jouer partout, tout le temps, y compris sur son mobile avec des jeux Steam. Ouais.
Ouais, alors.
Parce que ça aussi, ça va peut-être leur donner un peu.
C'est des rumeurs qui sont. Mais ça aussi, oui, il y a effectivement plein de concurrence qui arrive dans ce domaine. Si quand tu achètes ton jeu sur Steam, tu peux jouer en streaming aussi, bah oui, là, forcément, Stadia devient un petit peu moins intéressant. Mais oui, je crois que tu as raison, en fait. C'était ma conclusion aussi. Tout va dépendre de la difficulté de portage du jeu sur Stadia. Et Google a fait un choix un peu surprenant de développer une plateforme complètement indépendante de ce qui existait déjà, pour des raisons sur lesquelles on va parvenir, mais qui font effectivement que si jamais, pour porter ton jeu sur Stadia, tu avais juste à faire en une semaine de travail trois lignes de code et voilà, et ça tourne, bah effectivement, tu ne vas pas dire non à plus de revenus, parce que c'est vrai, il y a des gens qui, à chaque fois qu'on parle de Stadia, des gens qui me disent « Ah, mais moi, Stadia, ça me convient très bien, j'aime beaucoup ce système, je suis abonné, je suis content, ou même je ne suis pas abonné, mais c'est comme ça que je joue. » Il y a des clients, c'est vrai, mais la taille n'est pas suffisante pour justifier des investissements importants pour porter le jeu dessus pour un développeur qui n'a pas déjà un certain momentum, on va dire. Donc, si c'est compliqué, et ça a l'air d'être un peu trop compliqué quand même pour arriver sur Stadia, pour porter le jeu sur Stadia, ça change les choses. Maintenant, peut-être que financièrement, ça vaudra le coup pour certains. À voir. Bon, on va continuer
après,
à avancer.
J'allais rebondir juste là-dessus parce que quand même, je pense que le mode de distribution avec du revenu cher, en fait, hein, c'est presque ça. C'est quand même vachement intéressant pour les développeurs de se dire si tu vends bien, tu es plus rémunéré et que peut-être que derrière tu vas faire aussi un deuxième jeu et un troisième jeu sur cette plateforme. Je pense qu'il y a quand même ça qui est en face, qui a dans la balance, et c'est quand même assez intéressant. C'est parmi les premiers à proposer ce genre de deal. Sachant que faut pas oublier que donc là tu as le deal consolier, mais en plus souvent tu as un deal éditeur par-dessus aussi quand tu développes ton jeu, quand tu es ton studio, tu as le donc du coup peut-être que là tu peux gagner un petit peu plus d'argent que si tu allais sur les plateformes traditionnelles, à condition que ton jeu marche. Et c'est là peut-être aussi où c'est un peu compliqué par rapport à la nombre de joueurs.
Mais il y a aussi autre chose. Je regardais la liste des joueurs en fait sur Stadia, parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas regardé. Et en fait, il n'y a pas énormément de jeux disponibles. C'est aussi l'opportunité pour un studio d'avoir un peu plus de visibilité. Donc par exemple, là, je regarde sur la liste, il y a Cake Bash. J'en avais jamais entendu parler avant. Bonne chance pour trouver un jeu sur Steam, tellement c'est la jungle absolue. Si t'es pas vraiment, t'as pas eu de retombées presse, PR, en termes de visibilité. C'est extrêmement difficile. Donc, je pense que là, l'avantage de Stadia aussi vient de cette chose-là.
C'est à prendre en compte aussi, effectivement. Ouais. Bon, écoutez, on en rediscutera dans quelques mois quand on verra si ça a porté ses fruits. À noter que Epic a un deal de rémunération qui est un petit peu similaire. Ils sont à 15% ou 12%, je crois, quelque chose comme ça, sur l'Epic Game Store. Donc, mais c'est effectivement assez rare. Même si maintenant, sur mobile, on a aussi du côté de l'Apple Store et du Play Store sur mobile, 15% pour le premier million. Donc oui, ça commence à se généraliser. En parlant de jeux en streaming, on va aller un petit peu plus vite sur cette news, mais c'est en fait la confirmation et des nouvelles rumeurs sur les velléités de streaming de jeux vidéo de Netflix, qui a engagé un nouvel executive pour prendre en charge ce projet, avec visiblement comme idée d'ajouter des jeux en streaming, un bundle à la Game Pass ou à la Apple Arcade, sans doute un petit peu moins fourni, mais d'ajouter un bundle de jeux à l'abonnement existant, à l'abonnement Netflix existant. Et ça serait des jeux, on l'imagine, en streaming, comme on a maintenant un certain nombre d'offres de jeux en streaming, comme l'évoquait Claire tout à l'heure, maintenant, entre Stadia, Game Pass, peut-être Steam qui arrive, Netflix qui est là, Amazon qui va arriver en Europe dans pas longtemps, qui est déjà aux États-Unis, commence à y avoir du monde. Et bien sûr, on oublie PlayStation Now, mais ils sont là aussi. Et donc, Netflix l'intégrerait à l'abonnement de manière à offrir de plus en plus de choses aux personnes qui sont abonnées à Netflix. Il faudrait voir avec quel développeur ils peuvent faire des partenariats, mais je suis sûr que là encore, l'opportunité pour un développeur d'être sur Netflix avec ses, combien ils sont, 200 millions d'abonnés, peut-être un peu plus, je ne sais plus combien ils sont, mais il y en a beaucoup, l'opportunité serait importante. Et d'un autre côté, Netflix a depuis longtemps, c'est Reed Hastings qui disait notre concurrence, c'est pas que Disney ou HBO ou machin, c'est aussi Fortnite. Et donc, c'est intéressant de voir qu'ils vont dans cette direction. J'imagine, sans que personne ne parle pour aucun développeur, si Netflix vient voir un développeur et dit « Hey, on voudrait mettre votre jeu sur notre plateforme », Claire, si toi, tu étais un développeur, j'imagine que tu prendrais la chose au sérieux quand même.
Carrément. Enfin, je veux dire, c'est une audience hyper importante. Il y a quand même un certain nombre de jeux aussi qui sont développés à partir de licences de télé et tout ça. Donc, il y a une synergie à inventer. Il y a un public particulier aussi à toucher, probablement, si on prend les jeux pour, on va dire, par exemple, le jeune public. Parce que quand même, il y a énormément d'enfants aussi qui regardent Netflix.
Imagine, il y a même une section enfants, une section jeunesse. Je sais que tu as des enfants aussi qui sont un peu jeunes peut-être, mais tu ne les laisses pas devant ta catégorie Netflix générale pour les films et séries classiques. Tu vas dans la catégorie enfants. Il y aurait un truc à faire pour les jeux vidéo là aussi.
Carrément. Carrément. Et il y a quand même pas mal de parents qui mettent Netflix pour leurs enfants, pour les séries, etc. Donc ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Tu as un ciblage aussi, du coup, que tu peux faire pour présenter ton jeu plus que ce que tu pourrais avoir sur une plateforme comme Steam, en fait. Parce que, grosso modo, tu fais vraiment rentrer le jeu vidéo dans l'entertainment global. Parce que d'habitude, c'est la démarche inverse. C'est-à-dire que tu prends des gens qui jouent à des jeux et puis tu leur proposes des séries télé. Là, c'est là, enfin, des séries télé, des séries, je sais pas comment dire, des séries, on va dire tout court.
Oui,
pas télé.
Des séries, oui, on comprend.
Des séries tout court. Et là, en fait, c'est l'inverse, je trouve que c'est hyper intéressant. De toute manière, on va déjà depuis quelques années vers un entertainment global. Bon, là, si ça se concrétise et que ça marche vraiment, c'est fantastique. Après, je me demande un peu sur comment faire fonctionner tout ça sur un même média. Est-ce que du coup... est-ce qu'on joue avec des manettes sur une tablette, par exemple?
Je pense que c'est...
Qu'est-ce qui va être proposé, en fait, pour que ça, vraiment ça fonctionne?
Je crois que c'est obligatoire. S'ils veulent prendre les choses sérieusement pour les joueurs traditionnels, je pense qu'il faut une manette. Alors, peut-être qu'il y aura des jeux plus mobiles auxquels on pourra jouer sur téléphone ou tablette en touch, c'est possible bien sûr, mais pour les joueurs traditionnels, parce qu'ils ont beaucoup chassé les joueurs traditionnels aussi avec des séries comme The Witcher, comme Resident Evil, comme Castlevania, etc. J'imagine que ça fait partie de leur cible. Et heureusement, aujourd'hui, toutes les machines du monde qui peuvent jouer Netflix ont aussi des manettes. Enfin, on peut connecter une manette, que ça soit une box TV, Apple TV, etc. Que ça soit les téléphones ou tablettes, justement, on peut connecter des manettes PS4, Xbox One, Xbox Series S, X ou PS5. Tout fonctionne. Donc, je crois que ça serait moins problématique qu'il n'y a, qu'il n'y a 2 ou 3 ans même, où les manettes étaient moins faciles à connecter. Il y avait des manettes spéciales qui coûtaient cher, etc.
Après, la qualité de jeu, par contre, c'est une question. C'est-à-dire que Netflix met quand même des moyens importants dans le développement de certaines séries, ou films d'ailleurs. Est-ce que ça va suivre pour faire des jeux aussi sur cette plateforme-là? C'est une vraie question. Et pour le coup, c'est pareil, ça peut être hyper intéressant aussi.
Ouais.
Dans
ça, c'est à voir,
développeur,
c'est sûr,
de se dire on va développer sur Netflix, quoi. Sachant que pour les séries d'animation et les films et tout ça, pour connaître pas mal de gens qui sont dans ce secteur d'activité là et qui cherchent à financer via Netflix leur production, si ça pouvait être pareil pour le jeu, c'est une vraie aubaine pour les développeurs, quoi.
J'imagine que dans un premier temps, il y aura beaucoup de partenariats et de jeux qui vont être achetés par Netflix pour leur présence sur la plateforme. Et puis, dans un deuxième temps, ils vont se mettre effectivement à produire ou à coproduire des jeux. Ça va prendre un petit peu plus de temps. Je ne l'ai pas précisé, mais d'après les rumeurs qu'on entend, l'idée serait de lancer le produit dès l'année 2022. Alors, peut-être en fin d'année, mais ça va arriver assez vite. J'imagine qu'ils ne vont pas développer une offre de jeux suffisante en un an et demi pour ça. Donc, il y aura certainement des partenariats. Puis, il y a, comme on le disait, des synergies qui peuvent arriver. D'ailleurs, il y a une version de The Witcher 3 qui arrive, enfin je ne sais plus comment elle s'appelle, la version définitive, super définitive, méga définitive, qui inclura des bonus, des contenus bonus liés à la série. Peut-être qu'ils vont faire enregistrer à Henry Cavill toute la voix de tous les dialogues dans The Witcher, de Geralt. Bon, on verra. Et en parlant de manette, un truc, je le dis très rapidement, Phil Spencer a indiqué que la manette Xbox pourrait évoluer pour inclure des fonctionnalités de la manette PlayStation 5. Alors, il ne le dit pas comme ça, il dit « Ah, ils font des choses intéressantes, il y a des choses qu'on pourrait faire dans ce domaine », et évidemment, ce n'est pas une annonce. Et évidemment, ça ne pourrait pas être aussi important que sur PlayStation 5 parce que ça serait une division de la base installée, parce que tout le monde n'aurait pas cette manette. Mais je ne serais pas surpris qu'ils ajoutent des choses comme les manettes, les gâchettes adaptatives, etc. Surtout que sur la génération précédente, eux, ils avaient des gâchettes qui étaient beaucoup plus développées que sur PlayStation 4. Mais je pense que ça pourrait arriver, ce qui serait plutôt cool, ce genre de choses. Ils ne le diraient pas s'il n'y avait pas quelque chose qui était déjà en cours, je crois. Il l'a dit dans un podcast, le podcast de Kind of Funny Games. Et je pense qu'on ne le dit pas s'il n'y a pas déjà quelque chose qui est en cours ou qui est au moins en développement de test, quoi, j'imagine.
Oh, ça, c'est sûr. Hein. À mon avis, ouais. D'ici la fin de l'année, on verra quelque chose. Hein.
D'ici la fin de l'année, déjà, tu crois ?
Ouais, j'en suis sûr. À ce niveau-là, quand il y a une annonce qui passe comme ça, là, c'est clairement en développement déjà depuis un moment et probablement pas très loin de la commercialisation.
Ouais, tu le dis pas si c'est pas quelque chose de... Je suis assez
d'accord. C'est ça, ouais. Si c'est un produit qui sort dans 2 ans, on va pas en parler maintenant, ça laisse à Sony aussi le temps de trouver une contre-attaque et d'autres innovations. Ouais.
Alors, il n'a pas été très précis hein, sur ce dont il parlait, mais il n'empêche, il l'a clairement indiqué. Enfin, il a hinté, il a fait des petits clins d'œil aux gens qui étaient assez clairs. Dany, je sais qu'on va devoir te laisser partir bientôt, mais avant que tu ne t'en ailles, je veux absolument qu'on parle, au moins qu'on évoque Super Robot Tyson 30. dont je suis sûr qu'il te fait rêver, qu'il te réveille la nuit. Pour ceux qui ne connaissent pas, Super Robot Tyson ou Super Robot Wars, c'est un jeu de stratégie qui est basé sur tous les robots géants, qui réunit tous les robots géants. Il n'y en a pas eu un depuis 10 ans. Et là, c'est les 30 ans, la fête des 30 ans de Super Robot Tyson. Et ils ont annoncé je ne sais même plus qui développe Super Robot Tyson, honte à moi. C'est Bandai Namco, voilà.
C'est Namco, hein, ouais.
Ouais. Et ils ont donc annoncé l'épisode 30, enfin, en quelque sorte, il appelle Super Robot Tyson 30, avec tous les robots géants de l'histoire des robots géants. On a Gundam, Gridman, Mazinger, vous savez qui c'est Mazinger, bien sûr, Mazinger Z. Et Grandizer, j'ai pas vu Grandizer en fait. Je me
c'est Goldorak.
Grandizer,
c'est Goldorak. Ouais, il était déjà dans les anciens. Ouais. Ouais,
c'est
ouais.
Ça. Donc j'imagine qu'il sera dans celui-là aussi. Ça, c'est le jeu dont tu rêves, non ?
Écoute, en fait, ouais, alors de toute façon, je l'essaierai parce que ça m'amuse. J'aime bien les jeux de stratégie en fait, au tour par tour, donc ça me parle. Maintenant, c'est plutôt une excuse en fait pour montrer des combats de robots de séries complètement différentes les unes des autres et avec des crossovers incroyables. Donc par exemple, dans celui d'avant, il me semble qu'il y avait. Il y avait les vaisseaux de Nadia et le secret de nos bleus qui pouvaient se battre contre d'autres robots, etc. Et je trouve ça fun. Maintenant, ensuite, pour un jeu stratégique au tour par tour, c'est pas forcément les meilleurs qui existent, mais c'est rigolo à jouer. Ça me fait penser, je sais pas si t'avais essayé, sur 3DS, il y avait Project X Zone. C'était le crossover voilà, c'est exactement le même genre en fait. Hein.
Non, mais vas-y, maintenant tu parles de Project, c'est Cross Zone, Project Cross Zone.
Exactement, Project Cross Zone. Et donc c'est exactement le même genre de jeu, sauf que c'est les personnages de Street Fighter qui se battent aux côtés des personnages de Devil May Cry qui se battent aux côtés de genre King of Fighters ou Tekken, j'en passe, c'est des meilleurs, tu vois.
Et c'était plein de persos, très amusant. Et c'était une sorte de jeu RPG combat qui était très drôle, pas forcément les meilleurs jeux de la Terre, mais ça fait plaisir quand même. Ouais,
c'est ça, pour les vieux comme nous qui ça évoque plein de souvenirs finalement. C'est des bons jeux rigolos, qu'on terminera pas forcément, mais au moins les 2-3 premières heures on va s'éclater.
Généralement c'est le genre de jeu qui est réservé au Japon. Sachez que il sera disponible en Europe également, en Occident, sur Steam. Malheureusement, pas sur les consoles, mais sur Steam. Ça sort le 27 octobre. Donc, préparez votre porte-monnaie. Vous pourrez crier « Astéro H Rétro Laser !» et ce genre de choses. Écoute, il nous reste quelques news à couvrir, mais je pense qu'on va te laisser partir, Dani, parce que tu es quelqu'un de très occupé qui a des meetings très sérieux qui décident de l'avenir du monde capitaliste. Donc, on va te souhaiter une excellente
après-midi. On va greffer des puces 5G à tout le monde, des nanobots.
Très bien.
Merci beaucoup, on saura Dani. Tout ce que vous faites en tout temps. Merci à tous, à plus tard.
Tu nous rappelles où on te retrouve sur Internet ?
Bien sûr. Twitter, et donc mon handle c'est @notdany, NOTDANY, c'est très facile.
Excellent, merci beaucoup Dani, on te fait de grosses bisous.
Allez, à plus tard, au revoir.
Ciao, ciao. Et donc, on va conclure cet épisode avec Claire. Il nous reste quelques petits trucs à voir. J'ai laissé partir Dani avant qu'on ne parle des fameuses annonces d'Atlus. Mais c'est pas grave, on va y revenir. Un autre jeu qui sort très bientôt, c'est Death's Door. En anglais, La Porte de la Mort. Qui est ce jeu dont on vous a déjà parlé, où on joue un oiseau avec une épée laser. Et qui a l'air, je le dis en faisant un petit clin d'œil à tous les auditeurs qui savent qu'on fait cette blague régulièrement, qui a un petit peu l'air d'être le Dark Souls des oiseaux, en quelque sorte, mais qui est très très sympa vu isométrique, enfin qui a l'air très sympa en tout cas vu isométrique, avec c'est même pas vraiment une direction artistique, mais une ambiance tellement particulière, parce qu'on est un oiseau avec un sabre et différentes armes. C'est marrant parce que ça aurait été un jeu avec un personnage humain classique, personne ne l'aurait regardé. Là, parce que c'est un oiseau, tout le monde s'arrête et se demande de quoi il s'agit. Je ne sais pas si tu avais vu ce jeu passer lors des présentations précédentes, Claire, mais là, il arrive dans 5 jours.
Non, pas du tout. Alors, par contre, je découvre ce pitch avec bonheur. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il y a la grande mode, c'était un jeu avec une oie. Vous vous rappelez ?
Oui, c'était il n'y a pas si longtemps. Avec Untitled Goose Game, il y en a eu 2-3. Ouais.
Exactement, mais c'était improbable. Et là, ça a l'air aussi assez improbable. Voilà.
Je trouve ça vraiment...
Ça peut être super bien, hein, même improbable.
Complètement, complètement. Mais je trouve ça vraiment intéressant, cette idée que si ce n'était pas un oiseau, ça parlerait à personne. Enfin, je suis méchant, ce n'est pas vrai. Il a l'air intéressant, mais ça clairement, ça ne ferait pas autant de bruit. Bref, il arrive dans quelques jours à peine. On a aussi, donc, comme on disait, les annonces d'Atlus, les annonces d'annonces. Atlus, qui est une société de Sega, qui est le développeur de Persona, de la série des Persona, qui a dit que pour les 25 ans de Persona, ils allaient faire 8 annonces, je crois, entre septembre et novembre, quelque chose comme ça. En tout cas, ils disent à l'automne qu'est-ce qu'ils disent ? Célébration qui prendra en forme de 7 annonces étalées de septembre 2021 à l'automne 2022. Donc, ils étalent vraiment le truc. Donc, il y aura 7 annonces. On peut tout à fait imaginer qu'à l'automne 2022, on nous annoncera Persona 6. Mais entre-temps, il y aura un animé avec un personnage annexe de Persona 3, un jeu de danse supplémentaire avec les personnages de Persona 2, ce genre de choses. Mais il y aura quand même cette annonce. on peut imaginer que, vu que Persona 5 est sorti quand même en 2016, bah Persona 6 n'est pas forcément très très loin. Donc voilà, vous pouvez commencer à l'attendre avec une impatience non contenue. On imagine bien qu'ils ne vont pas annoncer la grosse annonce en premier et qu'ils vont garder la grosse pour la fin. Donc s'il y a un Persona 6, oui, ça sera certainement pas avant quelques mois. Il y a également le 20 juillet, pour ceux qui sont friands de démos, Samurai Warriors 5. Vous connaissez bien sûr cette série, hein, Sangoku Musso, qui est légendaire au Japon. Eh bien, le 5 aura une démo sur Switch, PC, Xbox One et PlayStation 4 le 20 juillet. Donc, si vous voulez le tester, vous pouvez dès le 20 et vous pourrez mettre les mains dessus. Et encore un décalage, Ghostwire Tokyo a été décalé, lui aussi, il a été décalé à début 2022. Ghostwire Tokyo, c'est ce jeu dont on ne sait pas encore grand-chose, mais qui est une autre exclusivité pour la PlayStation tout court, 4 et 5, et qui est développée par Tango Gameworks, qui est le développeur de Evil Within, mais qui a l'air beaucoup plus action. Bref, il n'arrivera pas avant début 2021. Et puis, pour les jeux vraiment de qualité française, on a un premier trailer pour le jeu de Microïds, Les Schtroumpfs Mission Malfeuille. Et là, j'en entends qui rigole. Eh bien, je vous pointe du doigt et je dis honte à vous, honte sur vous, ceux qui rigolent sur un jeu sur les Schtroumpfs. Parce que franchement, pourquoi pas ? Il n'y a aucune raison qu'un jeu Les Schtroumpfs soit mauvais. Je ne sais pas si, Claire, tu seras de mon avis ou si tu vois la licence un petit peu facilement acquise et sortie un petit peu trop rapidement, ce qui est certainement possible. Mais je me dis...
Non, je trouve ça cool de faire... Enfin, je veux dire, les Astérix, dans le fond, c'était sympa aussi, quoi.
Mmh. Ouais.
Du coup, non, je trouve que c'est plutôt... Et puis, ça a l'air mignon, c'est coloré. Personnellement, le dernier long-métrage des Schtroumpfs, en dessin animé, hein, je ne parle pas des films, je parle vraiment des dessins animés, c'était vachement bien. Bah, là, je trouve que ça peut être bien.
Ouais.
Ça peut être bien. Ça va dépendre aussi de si c'est difficile ou pas et de qui va jouer à ça. Est-ce que, par exemple, ils auraient fait un jeu familial, par exemple ?
J'imagine que c'est
ça,
le cas.
Oui. Intéressant. Voilà, ouais.
C'est ça. C'est un petit jeu de plateforme 3D.
Un truc en coop, tu vois. Un truc où tu peux jouer avec, un adulte, un enfant, par exemple.
Mmh. Ouais, complètement. Il y a vraiment des opportunités. Microïds est en train de développer beaucoup de choses, essentiellement avec des licences françaises, on va dire, faciles et peut-être un petit peu oubliées dans le jeu vidéo. Moi, je peux tout à fait imaginer que ça soit un jeu avec lesquels ils se lancent sur ce genre de jeu. Ça ne va pas être les meilleurs jeux de la Terre, a priori, hein, clairement, mais il y a des opportunités là-dedans et puis ça peut leur permettre de développer des choses à l'avenir de plus en plus ambitieuses. J'ai l'impression qu'il y a une volonté, une direction intéressante du côté de chez Microïds. Et vraiment, pourquoi pas, le jeu a l'air sympathique. Et encore une fois, je ne pense pas que ça va être des 10 Selec partout, mais un petit jeu sympa pour jouer avec un enfant, ça pourrait peut-être le faire. Donc, à voir, à surveiller.
C'est sûr qu'on ne va pas attraper des schtroumpfs pour taper sur deux schtroumpfs. Ça, c'est
oui.
Il y a des choses où on est sûr que ça ne va pas. Enfin, je veux dire, c'est un type de jeu probablement avec une petite histoire et puis aventure où on collecte des trucs, quoi.
C'est ça, voilà. Mais même, tu sais, au niveau du gameplay, rien que le principe des schtroumpfs, tu vois, tu as plusieurs schtroumpfs qui ont différentes forces et caractéristiques et faiblesses, tu peux tout
des
à fait développer.
Des classes de schtroumpfs, tu veux dire.
Mais ouais, exactement. Non, mais tu vois, tu as le schtroumpf grognon, il n'a pas les mêmes capacités que le schtroumpf à lunettes. Alors la schtroumpfette, c'est quand même un petit peu...
Le boss, c'est Gargamel.
Ouais, je pense qu'on est quand même dans une logique qui est un petit peu passée avec la schtroumpfette créée par Gargamel pour tenter les schtroumpfs, etc. On est quand même dans une ambiance qui est, comment dire, d'un autre temps, on va dire ça comme ça. Mais
ouais, mais dans le dernier film, il y avait le village des schtroumpfettes, là, enfin, avec les schtroumpfilles, là.
Ah, ouais, si,
il y a tous les schtroumpfilles et tout ça. Donc non, justement, ils ont réussi à renouveler pas mal les univers. Alors j'espère qu'ils utilisent aussi ces personnages-là, quoi.
J'ai pas l'impression, là, dans le jeu, mais bon, bref. Bon, on a peut-être assez parlé des Schtroumpfs, mais en tout cas, moi, je pense qu'il y a des choses à surveiller du côté de chez Microïds, peut-être dans les années à venir. En parlant de jeux extrêmement réussis, Cyberpunk 2077, on le disait la semaine dernière ou celle d'avant, est revenu sur le store PlayStation. Eh bien, figurez-vous que même avec le fait que Sony dise « N'y jouez pas sur PlayStation 4, il faut au moins une 4 Pro ou une PlayStation 5 pour y jouer », eh bien, il a été en haut des tops de vente Cyberpunk 2077 sur PlayStation pour le mois de juin. Donc, bon, après, clairement, les gens l'achètent. Et au niveau des tarifs intéressants, il y a eu sur la semaine dernière, coup sur coup, deux ventes de cartouches de jeux Nintendo qui ont atteint des prix incroyables. Le premier, c'est Legend of Zelda, le tout premier sur Nintendo Entertainment System, qui était en état de conservation et de qualité encore sous plastique, etc., qui s'est vendu à 870 000 dollars à une vente aux enchères. Et là, on se dit, ouais, mais attends, presque 1 million de dollars, c'est incroyable pour un jeu NES. Alors, il s'en vend régulièrement, hein, mais celui-là, il était d'une qualité encore, comme je le disais, sous plastique, complètement parfait. 870 000 dollars. Moins d'une semaine après, une copie de Mario 64, Super Mario 64, également d'excellente qualité, s'est vendue à 1,5 million de dollars. Donc, d'ailleurs, il y a des gens qui disent, est-ce que c'est normal que les prix augmentent aussi vite? Est-ce que c'est artificiel? Est-ce que c'est... Bon, on ne sait pas, mais 1,5 million de dollars pour une boîte de Super Mario 64 parfaitement conservée. Bah, je vous laisse vous demander si vous auriez payé autant. Moi, peut-être pas. À moins que les contributions patriotes s'augmentent de manière significative. Bon. Et peut-être que si vous avez un petit peu moins d'argent, vous voudrez acheter une montre Tag Heuer à 2150 dollars, une montre Mario qui fait... Oula, j'ai du bruit partout, on arrête le truc, pardon, ça m'a fait du bruit dans les oreilles. Une montre Mario qui fait des petites animations Mario quand vous atteignez vos objectifs d'activité. C'est une montre intelligente. Alors, les animations Mario sont exclusives à ce modèle-là spécifique pour quelques temps, et après, ça sera disponible sur toutes les montres Tag Heuer. Mais, bon, si vous voulez payer 2150 dollars pour une montre Mario, vous pouvez. Claire, je suis sûr que tu t'es jeté sur le site pour récupérer l'une des... Combien 2000 séries limitées Tag Heuer Mario, n'est-ce pas?
Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, je me suis jeté dessus. Non, en vrai, quand même, je trouve que c'est très, 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 très cher.
On est d'accord.
C'est pareil, les...
C'est une édition limitée.
Mais c'est un gadget, ça. Un gadget, oui. Ouais, c'est un gadget d'édition limitée. Je suis sûr qu'il y a un public pour ce genre de truc, mais pas moi.
Oui, on est d'accord. mais c'est un bel écran, hein, une montre circulaire avec un bel écran. Elle fait sûrement plein de trucs, hein, cette montre Tag Heuer. Je me demande si elle est sous Android ou sous un autre, enfin Wear OS ou sous un autre système. Mais bon, c'est une édition limitée. Si vous avez un enfant qui aime Mario, offrez-lui une montre à 2000 euros, ça fera plaisir. Voilà. Et puis, dernière chose, un sujet que je voulais évoquer, c'est la manière dont évoluent les systèmes de triche de jeux vidéo, avec un rapport de Ars Technica sur un nouveau système qu'ils ne nomment pas spécifiquement, mais qui utilise en fait de la reconnaissance par intelligence artificielle. Parce que, évidemment, les systèmes de triche, jusqu'à maintenant, c'était généralement des programmes qui tournaient sur votre ordinateur, qui analysaient l'image rendu par le jeu, qui repérait les éléments ennemis et qui ajustait votre ciblage vers l'élément ennemi pour tirer très facilement sur les ennemis quand ils apparaissaient. Il y avait même des trucs qui regardaient à travers les murs, enfin bref. Mais là, comme les développeurs sont devenus très bons pour contrer ce type de programme, il y a des nouveaux cheats qui sont apparus, qui sont en fait, qui passent par une carte de capture, c'est-à-dire que vous faites passer l'image de votre PC par une carte de capture sur un autre PC, et c'est l'autre PC qui va faire tourner le programme et qui va analyser non plus le programme qui tourne sur votre PC, donc qui est repérable, mais simplement l'image que sort votre PC et qui va, avec intelligence artificielle, repérer les ennemis. Et vous pouvez tout régler, vous pourrez régler la zone qu'il observe, vous pourrez régler la vitesse. Ah oui, il y a un autre élément, bien sûr, c'est que vous avez un outil qui va ajuster votre... qui peut en fait contrôler virtuellement votre souris ou votre manette et qui va donc recevoir les instructions de l'ordinateur sur lequel est le logiciel de triche pour se déplacer jusqu'à l'ennemi en une fraction de seconde. Et vous pouvez ajuster la zone que le programme surveille, la vitesse à laquelle ça va déplacer votre visée, etc., etc. Vous pouvez tout régler. C'est absolument ignoble. Et c'est très difficile à repérer. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Bien sûr, on peut repérer les performances d'un joueur qui a des performances inhumaines, mais c'est également possible que ça soit simplement, ça s'est vu, hein, ça repère simplement un joueur qui est très très bon, d'un niveau super élevé, et que le système considère comme inhumain. J'ai trouvé l'article très très intéressant, c'est sur Ars Technica, ça demande heureusement quand même un certain investissement, parce qu'il faut avoir un PC dédié à ça, donc c'est pas tout le monde non plus qui va pouvoir le faire facilement, mais il n'empêche, ça fait un petit peu peur. La conclusion au final, c'est que si vous perdez dans un jeu de tir, dans un FPS, et ben vous pouvez désormais clairement dire « Ah ben non, c'est un cheater, c'est pour ça que j'ai perdu, c'est pas du tout parce que je joue moins bien que les autres, c'est clairement une question de triche. » Voilà, maintenant vous savez. Ça fait peur hein, quand même ces choses-là. Surtout que la manière dont c'est fait, de l'intelligence artificielle qui surveille l'image et tout, bon, ça devait arriver, l'intelligence artificielle, on l'a voulu, on l'a.
Et ça, voilà. C'est la même chose que les deepfakes, en fait. Hein.
C'est un petit peu ça. C'est les mêmes technologies. C'est les mêmes technologies de deep learning qui sont développées, non pas pour créer des choses, mais là pour reconnaître des formes et des. Ouais, c'est exactement ça. Et voilà pour cet épisode du Rendez-vous Jeu. Merci Claire d'avoir été avec nous. On a passé un très très bon moment, enfin moi en tout cas, j'espère que c'était le cas pour toi aussi. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet du coup ?
Vous pouvez suivre mon Twitter, mais je ne suis pas très active dessus, je dois dire, donc je ne sais pas si c'est très 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 intéressant. Mais vous pouvez quand même me suivre sur Twitter si vous voulez.
Voilà. Ça marche, Atomic Snail Games. C'est ouais, ça. Tout à fait. On mettra le lien dans les notes de l'émission, le Twitter de Claire. Merci à toi d'avoir été là. Merci à vous tous d'avoir écouté également. Vous pouvez me retrouver sur Twitter. Je suis NotePatrick, Twitter, Facebook et Instagram. Et surtout, vous pouvez contribuer au Rendez-vous Jeu, comme le font déjà les vrais gens cool. Vous pouvez contribuer sur patreon.com/rdvjeu. Quand vous arrivez chez vous, vous mettez les clés dans le bol. Souvenez-vous du Rendez-vous Jeu et de Patrick. Et quand vous mettez les clés dans le bol, vous pensez à moi. De manière tout à fait honnête, hein, bien sûr, mais vous dites « Ah, Patrick, peut-être qu'il faudrait que je contribue au Rendez-vous Jeu sur Patreon. » Et en plus, si vous contribuez, vous aurez droit à l'after show qu'on va pouvoir enregistrer. Pour le coup, on va avoir 10-15 minutes pour faire ce petit after show. Donc, j'espère que les gens qui regardent sur Twitch en ce moment sont chauds, justement. Et on va pouvoir enregistrer ça. Et vous pouvez nous suivre, évidemment, sur Twitch. Je le rappelle de temps en temps, tous les jeudis midi pour l'enregistrement de l'émission, sauf pour les quelques semaines à venir, parce que je prends quelques semaines off. Donc, l'émission est en très courte pause estivale. Il y aura quand même un petit contenu bonus avec des gens que vous aimez bien pour venir peupler un petit peu le flux. Mais je reviens, moi, dans quelques semaines, après avoir complètement été lessivé par mes enfants, que j'adore, évidemment, pendant les vacances. Je vous fais de grosses bises à tous. Si vous êtes patriotes, rendez-vous dans l'after show dans une seconde. Sinon, rendez-vous dans quelques semaines. Ciao, ciao.